On va présenter la campagne qui est lancée par le Secours Rouge Marseille contre la loi Attal et contre la criminalisation de la jeunesse populaire. La première chose qu'on peut dire, c'est d'inscrire cette loi dans un contexte. Elle ne tombe pas du ciel, elle ne naît pas de nulle part, et c'est une loi qui va explicitement, dans ses attendus, dans sa préparation, avoir pour vocation de criminaliser les révoltes des quartiers populaires en particulier, mais qui va brasser beaucoup plus large puisqu'il s'agit de criminaliser, de délictualiser les familles des milieux populaires, notamment si il y a une confrontation, un antagonisme avec l'État. Et donc cette situation, pour qu'une telle loi puisse passer en France, elle est l'aboutissement d'une séquence qui est née il y a déjà un certain nombre d'années. Donc, la première chose déjà, c'est de prendre conscience de cette séquence. Depuis 10 ans, il y a, comme dans d'autres pays qui sont des centres impérialistes, il y a une crise de légitimité forte du pouvoir de la bourgeoisie. Et pour autant, il n'y a pas non plus d'alternative claire qui se dessine, en tout cas comme la perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire une perspective de rupture révolutionnaire. Et donc dans cette situation, on peut déjà se remarquer que cette crise de légitimité s'est manifestée à l'occasion de plusieurs mouvements sociaux, qui sont quand même des spécificités françaises pour une large part. Il y a eu d'abord le mouvement, bien sûr, des Gilets jaunes, ensuite un mouvement des retraites qui était très large, assez offensif, et puis celui des quartiers populaires après la mort de Nahel Merzouk, donc en juin 2023, et dernièrement, depuis octobre 2023, le mouvement, là aussi, de la jeunesse étudiante, pas seulement, contre le génocide à Gaza. Alors, en tout cas, ces quatre mouvements-là, c'est évidemment des mouvements qui ont réussi à drainer un nombre de personnes importantes et des milieux sociaux différents. Mais ils ont aussi pour particularité de ne pas être liés les uns aux autres ou pas suffisamment. Alors la réponse de la bourgeoisie à cette crise de légitimité, on la connaît, elle apparaît de façon de plus en plus claire. C'est ce qu'on peut appeler un processus de fascisation. Et à l'intérieur de ce processus de fascisation, il y a justement ce point particulier qui est à la fois une constante des classes dominantes et des autorités françaises, et en même temps quelque chose qui s'est accéléré ces dernières années, qui est une criminalisation de la jeunesse populaire. Et il s'agit essentiellement de rendre illégitimes les formes de révolte de cette jeunesse, de cette partie du prolétariat, et il s'agit aussi de l'isoler. Et le capitalisme ne peut pas répondre aux attentes et aux besoins de cette partie de la population en particulier. Elle ne peut pas lui proposer ce qu'on appelait traditionnellement une intégration sociale, par le travail notamment, et donc elle inverse les rôles. En ne pouvant pas répondre, en ne pouvant pas intégrer, elle dit que c'est cette jeunesse-là qui désintègre la société, qui la détruit. Et donc c'est la première question qui se pose pour nous, c'est d'abord un jugement sur cette phase, cette situation, globalement sur la société. Que vaut une société qui enferme ses propres enfants? Et dans un deuxième temps, c'est de voir en quoi la lutte contre des lois qu'on estime scélérates peut être un vecteur de reconstruction d'un rapport de force à partir des milieux populaires, d'auto-organisation. Il ne s'agit pas pour nous de romantiser la vie sociale telle qu'elle est, en particulier la vie sociale dans les quartiers populaires, parce qu'ils connaissent des contradictions internes, des problèmes internes qui sont extrêmement forts, mais de valoriser des outils d'auto-organisation de ce qu'on peut appeler des communautés prolétaires. Donc pour présenter un peu cette campagne, on voudrait parler là ici de 3 points. Le premier point, c'est l'origine de cette loi Attal, l'origine factuelle, l'origine circonstancielle, sont les émeutes de 2023 après la mort de Nahel Merzouk à Nanterre. Donc il s'agit pour nous d'abord de voir un peu quelle est la nature de ces révoltes et quelle conclusion politique on peut en tirer, quelle leçon politique on peut en tirer. Et comme d'une façon générale, l'analyse marxiste nous y invite, en particulier l'analyse léniniste, c'est d'analyser les différentes positions des différentes classes sociales dans la société. Ne pas regarder qu'un seul aspect, mais regarder l'aspect dynamique, la tendance qu'il y a au sein de la bourgeoisie, les contre-tendances qui peuvent exister dans différentes couches sociales, et en particulier les tendances positives d'auto-organisation, d'autonomie prolétarienne. Ce sont des tendances qui sont souvent fragiles, Mais c'est là-dessus qu'on peut construire une alternative pour les années à venir. Donc là, il s'agit dans un premier temps de prendre un peu de temps sur de revenir sur ces émeutes, d'essayer d'en comprendre la nature et les conclusions politiques qu'on peut en tirer. Alors, j'utilise le terme émeute ici, qui est un terme un peu générique. Si on veut le politiser à juste titre, il faudrait plutôt parler de révolte. Notre point de départ, c'est donc un mouvement. Et c'est aussi le point de départ de la bourgeoisie sur cette loi Attal et sur un renforcement de la criminalisation de la jeunesse populaire, même si, comme on va le voir, il y a tout un élément, tout un arsenal de lois qui encadre aujourd'hui l'expression politique, sociale, et même de la vie courante, on pourrait dire, de la jeunesse des milieux populaires. Mais on va quand même partir de ce point de départ. Donc c'est un grand mouvement, de masse que j'appelle non standard, dans le sens où il a eu lieu en dehors des structures organisées de protestation classiques dans le pays, que ce soit des associations, des syndicats, des partis politiques, mais en même temps, donc, il révèle quelque chose de profond dans la société française. Il révèle une sorte de tectonique des plaques sur laquelle reposent les contradictions de la société française. Et c'est un mouvement qui n'est pas simplement révélateur des contradictions de la société, c'est un mouvement qui a été aussi une pointe contre l'ordre établi. Donc qui est un des rares mouvements en France à avoir... à s'être opposé frontalement à l'ordre établi. Il y a une sorte d'équivalence sur ce point avec ce qui s'est passé dernièrement contre l'ICE et contre les mesures d'expulsion de masse aux États-Unis et en Californie, en particulier, mais sur tout le territoire états-unien en général, c'est-à-dire quelque chose qui révèle, qu'on connaissait déjà, mais surtout qui organise, qui montre une réalité politique là où on ne veut pas la voir, puisque... Chacun aux États-Unis, par exemple, attendait que ce soit une réponse, l'ensemble des offensives du contre-Trumpisme, qu'il y ait une réponse un peu institutionnelle, ou de la gauche du Parti démocrate, etc. Et puis elle est venue, effectivement, comme on dit, de la rue. Ben, c'est la même chose en France. Il y a des points de rupture et de mobilisation et de lutte politique qui viennent de la rue, et pas des mouvements institutionnels, y compris les mouvements dits contestataires. Hein. Donc l'élément déclencheur, d'abord. La nature de cette révolte, quelle est-elle ? L'élément déclencheur, tout le monde le connaît. Un policier qui depuis a été muté à l'endroit où il souhaitait, puis qui a été finalement couvert après un début de dissociation des autorités par rapport à ce qu'il avait commis. Donc il y a un policier qui a tué un jeune désarmé, qui était donc dans un véhicule. Le jeune, comme la plupart du temps, c'est un jeune qui est noir ou arabe, la plupart du temps pour les crimes policiers, hein. C'est pas une exclusive, mais les crimes policiers sur la jeunesse prolétaire en France est extrêmement ciblé. Et il y a donc une agressivité policière particulière qui va à terme, c'est-à-dire à la mort d'un jeune, et des populations marginalisées, stigmatisées, qui se sentent en fait à la fois contrôlées et qui se sont identifiées. La balle dans la tête qu'a reçue Naël, c'est un message pour des milliers, peut-être des centaines de milliers de jeunes. Et ça a été perçu comme ça de façon spontanée et immédiate. Le message, il est extrêmement clair, c'est votre vie ne compte pour rien. Vous faites un délit, vous pouvez en mourir, parce que vous êtes du mauvais côté de la société. Et donc, il y a bien eu une condamnation au départ, c'était d'ailleurs une particularité qui avait été notée par plein de chroniqueurs de l'époque, par la sphère médiatique. On expliquait, voilà, les autorités, là, pour une fois, elles condamnent le geste policier. Après des années où il y avait une sorte de solidarité totale de tous les corps d'État avec la police, là, il y avait une sorte de mouvement de recul. Mais le reste de toute l'affaire a montré que la gestion de l'action de la police, elle a été soutenue, bah, d'abord pour la répression de ces révoltes, et puis finalement, par rapport à l'épilogue, c'est-à-dire le soutien au final de ce policier par les institutions policières, bien sûr, mais aussi par le gouvernement. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est commun à beaucoup d'affaires de ce genre. Le deuxième aspect qui est commun à beaucoup d'affaires de ce genre, c'est le territoire concerné. Alors dans ces territoires, de quoi on parle ? La bourgeoisie, elle parle de reconquête de ces territoires. C'est-à-dire, ils sont même considérés comme des territoires quasi étrangers, pour plein de raisons, avec des techniques et technologies de surveillance et de répression qui remontent à l'époque coloniale. Donc c'est des quartiers aujourd'hui qui sont appelés des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et dans lesquels ce genre de crime policier a la plupart du temps lieu, depuis des décennies, sont des quartiers qui sont de plus en plus considérés comme des zones de sécession, des zones à reconquérir, des zones, comme le veut le vocabulaire officiel, de séparatisme, comme si ces quartiers-là se séparaient volontairement du reste de la société. Alors c'est fait, tout le monde les connaît en général, même si on ne va pas nécessairement les présenter comme ça. Et la difficulté pour nous, bah, ce n'est pas de dire quelque chose de nouveau sur ces faits, c'est pas de dire ce que personne n'a jamais vu, mais c'est plutôt de penser des choses nouvelles à propos de ce que tout le monde voit et de ce qu'on peut en faire pour une politique qui soit réellement autonome des autorités, de la bourgeoisie, pour une politique de ce qu'on appelle, nous, à Secours Rouge, Marseille, à Supernova, l'autonomie prolétarienne. Alors les émeutes de 2023, ou les révoltes de 2023, elles ont été donc en grande partie identiques à tous les révoltes qui ont eu lieu auparavant dans ces crimes policiers commis dans les quartiers par la police française. C'est une problématique qui remonte à loin, au moins au début des années 80, mais il y a des différences qui sont remarquables. Il y avait déjà une différence importante en 2005, c'est l'étendue, l'intensité, l'extension d'une révolte qui est d'abord qui est souvent localisée à quelques quartiers ou à un quartier même. Et déjà en 2005, avec la mort de Bouna Ziad, il y avait une extension. Là, l'extension, elle était massive, absolument généralisée, y compris dans tous les quartiers qui avaient été considérés comme échappant à ce type de révolte, soit des villes moyennes, plus ou moins en milieu semi-rural, soit des grandes villes, des grandes métropoles comme Marseille, qui avaient en général été considérées comme échappant à ce genre de soulèvement de la jeunesse populaire. Donc il y a des différences. Il y a une intensité beaucoup plus grande qu'il faut analyser, une rapidité dans le mouvement, une masse de personnes qui sont impliquées dans les affrontements, une attaque directe des institutions, ça c'est quand même quelque chose aussi de très marquant, des commissariats en particulier, et une réponse des autorités qui est aussi particulière par rapport aux années précédentes, aux décennies précédentes. Donc il y a une question de continuité et de rupture là. Et il y a quelque chose qui se passe par rapport à la façon dont la bourgeoisie gère les conflits sociaux en France. Ces révoltes, elles sont pour nous une forme légitime de la lutte des classes. C'est un point simple, clair, mais qu'il faut sans cesse rappeler parce qu'on a tendance à considérer que les révoltes de cette jeunesse populaire, n'étant pas celles du monde du travail, n'auraient pas de lien avec le mouvement ouvrier et son histoire. Et ça, c'est la manière en fait syndicaliste, réformiste, de voir le mouvement ouvrier et son histoire. Ce type de révolte et les révoltes qui n'ont pas de lien direct avec les lieux de production sont partie intégrante de l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc cette forme, elle est souvent spontanée, elle nous apprend énormément de choses. Elle nous apprend que tout ne peut pas rester calme, même quand il n'y a pas d'organisation révolutionnaire pour mener le combat. La spontanéité, et non pas le spontanéisme, hein, la spontanéité, c'est la base de toute lutte et de toute perspective possible. Elle nous apprend aussi des choses sur les matériaux explosifs qu'il y a dans la société, et sur dans quel sens les militants révolutionnaires en particulier doivent travailler. On peut prendre des exemples là-dessus qui sont clairs pour ceux qui sont attachés au mouvement ouvrier à la perspective marxiste. Marx, il part d'une réalité qui n'est pas celle d'un prolétariat structuré, organisé, avec de longues traditions militantes. Et d'une certaine manière, on est dans des situations similaires. Non pas qu'on est à la même époque que le jeune Marx, comme on dit, mais parce que on est dans une période dans laquelle il y a des masses énormes de prolétaires sans réserve, de prolétaires qui ne sont pas liés directement à la production dans le sens classique, avec un statut pérenne. Et donc, en fait, Marx, il parlait du vol de bois dans les forêts allemandes, hein, en Silésie, il parlait des ludites qui cassaient les machines, il parlait d'un prolétariat qui n'avait pas les caractéristiques d'un mouvement structuré, organisé avec ses traditions de lutte. Ben, on est un peu, toute proportion gardée, dans la même situation. Il faut avoir un regard qui est le même que celui de Marx, c'est-à-dire d'où viennent les forces qui peuvent changer les rapports de force dans la société. Les révoltes de 2023, elles ont été motivées pour des raisons politiques, pour un vécu commun et une réponse des autorités. Et donc c'est tout sauf des révoltes irrationnelles. Il peut y avoir des tas de phénomènes irrationnels dans des révoltes, mais dans tous les mouvements sociaux, ça peut être le cas. Mais la raison d'être et le déroulement de ces révoltes en font d'elles des révoltes logiques. Elles concernent d'abord des relations immédiates, constantes, oppressives avec la police. Les populations les plus contrôlées, les plus brutalisées, elles se sont révoltées en s'identifiant à Naël. C'est pas simplement la question du rapport à la police. C'est cette révolte est un catalyseur de toute une vie qui est dénigrée d'un traitement humiliant permanent. En France, comme dans d'autres pays de cette nature, dans les métropoles impérialistes, on vomit la jeunesse populaire. comme de plus en plus avec un discours qui était réservé autrefois aux fascistes et qui est, semble-t-il, aujourd'hui institutionnalisé. Hein, un ramassis de barbares, de désintégrés, de barbares islamisés, etc. Donc il y a eu cette première dimension, qui est un rejet de ce traitement à la fois policier, mais aussi idéologique. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui était souvent critiqué par une certaine conscience de gauche, mais qui a une conscience falsifiée, qui était de dire « Ah oui, mais c'est une sorte d'amusement, une sorte de défouloir, une sorte de carnaval même violent, parce qu'il y a une dimension ludique. Il y a une compétition honorifique entre les quartiers populaires, à qui fera le plus de dégâts, etc. » Et il est tout à fait possible qu'il y ait cette recherche d'adrénaline et cette recherche du sentiment d'exister. Et il faut l'accepter, parce que toute lutte, elle est nourrie aussi par des subjectivités. Et ces subjectivités, elles ne sont pas à dénigrer. La troisième chose, c'est une dimension qui est apparue très fortement dans ces révoltes, c'est la dimension économique. Il y a eu des actions pour piller des magasins. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que c'était... Ça existait des pillages de consommation sur les marques, sur les baskets, etc. Mais en fait, il y a eu des cibles qui n'ont jamais eu lieu, depuis des années en tout cas en France, qui étaient du pillage, de la récupération de magasins, de nourriture, des couches culottes, du riz, etc., etc. Donc en fait, là, c'est quand même le signe aussi d'une paupérisation extrêmement forte et de besoins extrêmement forts. Et puis, il y a eu une dernière dimension, qui a été vécu de façon absolument traumatisante par les autorités françaises, qui a été le fait que les autorités locales, les autorités policières bien sûr, mais aussi les autorités politiques, ont été parfois prises pour cible, avec des sortes de règlements de compte entre des populations et ces autorités et leur façon de les traiter. Donc voilà, toutes ces dimensions-là font qu'il y a des raisons d'être de ces affrontements, et un aspect qui est fondamental, c'est justement, on en a parlé, c'est cette intensité. Il y a eu, entre 2005 et 2023, trois fois plus de bâtiments publics endommagés. Il y a eu davantage de véhicules incendiés. Il y a eu quatre fois plus de policiers et de gendarmes mobilisés. Quatre fois plus de policiers et de gendarmes blessés. Évidemment, il y a un rapport ici qui peut exister de cause à effet. Et on n'a pas fini d'étudier en fait ce qui s'est passé comme intensité à ce moment-là, ce niveau de détermination. Mais ça montre des choses très importantes du côté de ceux qui pensent que la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui doit être combattue. Les autorités bourgeoises, elles se préparent aussi. Elles tirent des leçons de ces révoltes, et elles se préparent aux révoltes suivantes, et elles savent qu'elles sont inéluctables. Et donc il faut qu'on considère aussi les réponses de la bourgeoisie. Elle sait très bien qu'elle a affaire à des affrontements de classe. Il y a que dans la conscience falsifiée de justement de la gauche réformiste que on peut analyser ça autrement que comme des révoltes de lutte des classes. Et la réponse des autorités, c'est essentiellement ce qu'on peut appeler la mobilisation réactionnaire des masses, c'est-à-dire à la fois la guerre de l'État contre les plus pauvres, mais aussi et surtout de susciter un affrontement, une hostilité, un antagonisme entre les catégories les plus pauvres de la population. Et c'est le cadre politique, idéologique de la loi Attal. C'est assez explicite, puisque d'abord, la loi Attal, par rapport à celui qui est son promoteur, mais à tous ceux qui l'ont défendu, elle a pour but de répondre aux révoltes de 2023, et elle a identifié donc qu'il y avait parmi les arrestations un tiers de mineurs. 1180 mineurs identifiés comme auteurs d'infractions pendant les émeutes de juin 2023 sur 3651 interpellations. Donc, il y avait parmi ces mineurs plus de 60% qui viennent de familles monoparentales, la plupart étant donc des enfants de mères élevant seuls leurs enfants chez elles. Et donc en fait, on a affaire à quoi ? On a affaire à une réponse pure et simple, dire comment punir cette population pour l'isoler. Et la conclusion de la bourgeoisie actuelle, c'est de punir ces mineurs s'ils se révoltent, mais surtout de punir les familles les plus précaires. Pour empêcher la rébellion, donc on menace d'enfermement et on fait une charge ignoble sur les parents. Alors, ce discours, il a existé depuis très longtemps, en particulier dans les courants de droite, d'extrême droite, comme on dit, du théâtre politique bourgeois, de dire il faut punir les parents, il faut... Mais la particularité, c'est que dans les années 80, il y avait un discours officiel qui était un discours de type réformiste. C'est-à-dire, il s'agissait, malgré toute l'hypocrisie de ça, c'est-à-dire qu'il mettait complètement de côté les vraies questions, celles de la marche contre le racisme de 1983, qui posait des questions de discrimination, de crimes racistes, de crimes policiers. Bon, on mettait ces questions de côté. Par contre, il y avait quand même, de la part du pouvoir, la présentation, la classe dominante, elle prétendait trouver des solutions sociales à la crise des banlieues, comme on l'appelait à l'époque, au malaise des banlieues. Et donc, dans les quartiers du nouveau chômage de masse, de la fin des Trente Glorieuses, on désignait certes la population dangereuse et les émeutiers jeunes comme un problème, mais on faisait en sorte d'avoir des plans banlieues pour essayer de les réintégrer, d'avoir des plans économiques, de zones franches, etc. Là, on n'a pas affaire juste à une droitisation aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas affaire juste à une offre de droite qui serait plus séduisante pour les couches moyennes et les couches supérieures de la population. On a affaire en fait à l'incapacité du capitalisme à pouvoir intégrer dans son fonctionnement classique des millions de personnes, des millions d'êtres humains, en particulier jeunes, et qui sont désormais considérés pas simplement comme une main-d'œuvre qui peut être corvéable à merci et qui peut être précarisée, mais comme en grande partie et de plus en plus des êtres superflus, qui n'ont plus de légitimité à être dans le corps social. Et donc il va y avoir quelque chose qui... le vocabulaire va changer. Il s'agit plus de réprimer et de prévenir, il s'agit de se protéger d'une masse de gens dangereux et de montrer au reste de la population qu'on va les protéger contre cette immense masse dangereuse qui est séparée de la vie sociale normale. C'est devenu une guerre civile contre les indésirables. En tout cas, un vocabulaire de guerre civile contre les indésirables. Et donc, l'issue que propose la bourgeoisie aujourd'hui, c'est la guerre des masses populaires entre elles. Et il faut qu'il y ait des bases objectives pour ça. Et ça peut fonctionner à partir du moment où c'est pas simplement de l'idéologie, c'est pas du matraquage de CNews, du groupe Bolloré et des différentes officines de fachos. C'est parce qu'il y a une base réelle de crise du capitalisme et de sa gestion par la bourgeoisie. On peut pas ignorer les contradictions réelles qu'il y a au sein du peuple, comme aurait dit le président Mao. Il y a des contradictions absolument réelles. Et donc c'est là où il faut pouvoir développer des lignes qui peuvent contredire, qui peuvent essayer de sortir de l'isolement ces populations qui se sont révoltées. Alors il y a pour nous trois grandes leçons possibles de ces révoltes de 2023, selon la classe ou la fraction de classe à laquelle on appartient, en tout cas sur le plan politique et conscient. La première pour nous, c'est celle justement qui est à l'état naissant dans les révoltes, mais qui peut exister et se prolonger que si elle arrive à trouver un courant politique, c'est l'auto-organisation, l'auto-défense, la résistance à la classe dominante, et c'est la réponse du prolétariat. Il y a une deuxième réponse possible, c'est celle qui a été proposée pendant des dizaines d'années, soit par l'État directement, soit par les différents groupes, fractions de la bourgeoisie, en particulier la bourgeoisie de gauche, qui est l'amélioration des conditions de vie, qui amènera finalement à limiter, dans le cadre du capitalisme actuel, à limiter au sein de ces contraintes établies, donc, les inégalités, à réformer en partie la police, à faire une police de proximité, etc. Alors c'est la grande réponse de la bourgeoisie de gauche sous ses différentes colorations, et c'est la seule qui peut être présentée dans un cadre parlementaire, aujourd'hui en tout cas. Donc même les tendances les plus à gauche de l'échiquier politique ne restent que dans le cadre de cette proposition. Mais en fait, cette proposition, elle est complètement, aujourd'hui, mise de côté. Elle est complètement marginalisée, et elle est considérée comme radicale, hein, comme ne pouvant pas être mise en place, utopique, etc. Parce que la grande réponse aujourd'hui, elle est tout simplement celle d'une sorte d'unité de la bourgeoisie sur ce point. Il faut réprimer les possibilités d'auto-organisation, il faut tuer dans l'œuf toute possibilité de jonction entre les révoltes des quartiers populaires et les autres mouvements sociaux. Et donc, organiser la mobilisation réactionnaire des masses, c'est une priorité, et c'est une réponse non seulement de la bourgeoisie de droite, d'extrême droite, etc., mais même des courants dominants de l'ensemble de la bourgeoisie aujourd'hui. On l'a dit, la réponse réformiste, elle est connue, c'est celle qui a amené les plans banlieues, les plans de l'ANRU, la rénovation urbaine. Elle a un long précédent, puisque c'est aussi celle, en fait, si on compare avec les politiques américaines, états-uniennes, c'est aussi celle qui était celle de Lyndon Johnson dans les émeutes des années 60. La commission dite Kerner, elle avait conclu que les grandes émeutes raciales des années 60 aux États-Unis, c'était des émeutes qui étaient dues, dans l'écrasante majorité des cas, à l'abus de la force des policiers, et donc qu'il y avait une commission, par la suite, qui a conclu à nouveau, qui s'appelle la commission Katzenbach. Et donc là, on a tenté une réforme des actions policières, aussi bizarre que ça puisse paraître aux États-Unis, mais ça a fait l'objet à l'époque de politiques publiques, où on a essayé de considérer que c'était un problème public, la façon dont les policiers se comportaient vis-à-vis de cette jeunesse. Et on sait que, en fait, cette solution, c'est une diversion. Il s'agit en fait de pas remettre en cause les structures d'oppression. Et la preuve historique de ça, ben, ça a été Ferguson, ça a été Black Lives Matter, ça a été le renouveau des mouvements de lutte, malgré l'embourgeoisement d'une partie de la population noire états-unienne, et malgré ces soi-disant solutions. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que aucune volonté de réforme quelconque de la police n'a de place dans les programmes de la bourgeoisie. L'article L435.1 du Code de sécurité intérieure, donc c'est celui qui permet aux policiers de tirer s'ils se sentent en danger lors des contrôles de refus d'obtempérer, il ne fait pas partie des propositions de la plupart des groupes parlementaires aujourd'hui. Et par contre, la question, c'est celle du rétablissement de l'autorité, de l'affaiblissement des familles monoparentales pour les punir, de rétablir un certain nombre de notions, en mettant le paquet sur cette idée que les plans banlieue et la réforme de la police, c'est pas la bonne réponse, c'est la répression qui est la bonne réponse, c'est la seule offre que propose la bourgeoisie aujourd'hui. Donc, on a ça, évidemment, dans les parties les plus marquantes, comme qu'on a les parties les plus réactionnaires, qui sont les visages réactionnaires d'aujourd'hui, donc en particulier Retailleau. Mais Retailleau, si on regarde ce qu'il propose sur le plan politique, et pas simplement les rafles de populations immigrées, et pas simplement son discours déjà en grande partie guerrière contre l'Algérie, et donc contre les populations issues de l'Algérie en France aussi. Mais si on regarde en fait ce qu'il propose même à ses troupes, il propose de faire un parti, depuis qu'il a pris la tête de LR, propose de faire un parti des gens honnêtes. Alors c'est intéressant évidemment ce vocabulaire-là. C'est l'idée en fait, quand il l'explique, de la défense de la classe moyenne contre ceux qui sont les populations dangereuses, les populations dangereuses qui sont définies socialement aujourd'hui. Ces populations qui touchent les minima sociaux et ces populations qui ne respectent pas les règles, qui à la fois profiteraient du système social et respecteraient pas les règles et les lois. Et donc, en fait, au même moment où on va enlever les délits financiers d'un modèle punitif, puisque Darmanin il a proposé qu'il n'y ait pas de prison pour les délits financiers, donc on va élargir à l'idée qu'il y aurait ontologiquement, de façon profonde, dans leur être, toute une partie de la population qui serait du côté des malhonnêtes. Bon, alors ça, évidemment, ça c'est le discours de la droite, ou de l'extrême droite, on peut les appeler comme on veut là-dessus. C'est le discours aussi d'Attal, Attal qui est présenté comme un centriste, venant de la gauche réformiste. C'est le discours, en fait, aujourd'hui, qui est une sorte de consensus de la bourgeoisie. Donc la lutte, elle est celle contre ce consensus de la bourgeoisie. Toutes les forces qui peuvent lutter contre ce discours et ces pratiques sont pour nous celles de cette campagne contre la criminalisation de la jeunesse. Alors cette campagne contre la criminalisation de la jeunesse populaire, ce qui nous paraît utile et indispensable, c'est de bien comprendre qu'elle n'est pas contre une loi. Elle est contre un ensemble, un arsenal politique et juridique, même si cette loi Attal, c'est une sorte de pointe avancée. En fait, la question de la jeunesse populaire en France, la jeunesse du prolétariat, en particulier la jeunesse qu'on appelle issue de l'immigration, mais en fait celle des quartiers populaires, cette jeunesse, elle est, depuis des années, depuis plusieurs décennies, elle est accusée de tous les maux de cette société, et donc elle est présentée par les dirigeants politiques, par les médias, elle est décrite comme violente, comme vénale, comme masculiniste, comme antisémite, comme séparatiste, comme radicalisée. Elle est présentée comme la source des dangers, de l'instabilité dans ce pays. Et cette accusation, qu'est-ce qu'elle permet ? Nous, on n'a pas une vision, on ne cherche pas à avoir une vision ici qui consiste à dire « Non, il n'y a absolument aucun problème dans les comportements sociaux des jeunes des milieux populaires. » Parce qu'au contraire, on pense que le comportement qui sont des comportements destructeurs, ils viennent justement de la domination idéologique et de la vie sociale sous le capitalisme. Et donc, il ne s'agit absolument pas pour nous de faire une sorte d'apologie du mode de vie populaire pour dire qu'il est absolument louable et magnifique, etc. Il y a des tendances qui sont des tendances d'auto-organisation, d'émancipation, de lutte à l'intérieur de cette culture des milieux populaires, et il y a des tendances d'aliénation, il y a des tendances de destruction. Donc ça, une fois que c'est clarifié, on peut se demander, en fait, ce discours de criminalisation de cette jeunesse, à quoi il sert ? Et il sert pour nous essentiellement à rendre illégitime la révolte de ces jeunes, de ce groupe humain, à l'isoler, en fait, particulièrement. À l'isoler, et cette jeunesse, qui est la jeunesse la plus paupérisée, la plus discriminée, elle va, et elle est nécessairement, une force essentielle dans les conflits politiques à venir. Et c'est cette question-là, pour nous, qui est au cœur de notre démarche. Donc, pour nous la démagogie populiste de dire tout est on va contre le discours bourgeois de criminalisation des jeunes, donc on va survaloriser tout comportement de la jeunesse populaire, c'est un discours inopérant, inutile, et qui n'est pas celui d'ailleurs qu'on trouve y compris dans les milieux les plus populaires. Donc il y a plein de dysfonctionnements, il y a plein de maladies sociales, en particulier les mythes de l'argent facile, en particulier le mythe du banditisme. Et cette façon de justement cantonner cette jeunesse à ce type de vie, à ce mode de vie, qui est un mode de vie de capitalisme voyou, c'est absolument pas une perspective pour nous, et c'est pas la seule, c'est pas la seule possible. Donc il n'y a pas de fatalisme dans cette question. Ces mythes de l'argent facile et ces mythes du banditisme, ils sont puissants justement parce qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui offerte à cette jeunesse d'avoir une vie digne. Et pour nous, on voit qu'il y a une histoire de cette criminalisation de la jeunesse, et cette histoire, elle permet, quand elle est reprise, elle permet de voir qu'il y a une continuité de la bourgeoisie dans la lutte contre cette catégorie, mais qu'il y a aussi une inflexion, une aggravation. Et à la fin des années 70, il y a eu une première loi sécurité qui visait les quartiers périphériques des grandes villes. C'était une loi qui était issue de commissions et qu'on appelait la loi Pierrefitte sur la sécurité. Et puis au début des années 80, est apparue sur la scène sociale française l'histoire justement des banlieues, en particulier ce qu'on a appelé les rodéos des Minguettes à Vénissieux en 81, mais aussi dans l'été meurtrier en 83. Et là, on a mis en place une politique de la ville. Et à l'époque, le lien qui n'est pas fait, c'est que Vénissieux, c'est une ville dans laquelle on vient de supprimer 5000 emplois. Il vient d'avoir le plus grand employeur de la ville qui vient de fermer des chaînes entières de production. Et donc les luttes contre les discriminations, les luttes contre les crimes policiers ne vont pas faire partie de la politique de la ville, et les luttes contre les licenciements non plus. Et donc il va y avoir un saucissonnage, comme pour dire les questions urbaines, c'est quelque chose, mais ces questions qui ont affaire à l'État et au capitalisme, en particulier sur l'emploi, ça c'est encore autre chose. On va créer sinon des emplois aidés, des emplois secondaires, des zones franches, etc. Et il s'agit là à chaque fois effectivement de ne pas toucher à l'essentiel, c'est-à-dire au fonctionnement d'un capitalisme en crise. Et il va y avoir donc toutes les années 80 qui vont être des années dans lesquelles il va y avoir beaucoup d'illusions sur ces plans banlieues, et sur le climat antiraciste officiel avec SOS Racisme, etc. Et il va y avoir une désillusion à partir de 1991. Pourquoi 1991 ? Parce que là, il va y avoir justement une articulation entre ce qui se passe en France dans les quartiers populaires et ce que fait la France en tant que puissance impérialiste. Le plan Vigipirate en 91, il est mis en place. Alors là, c'est très important et intéressant de revenir dessus, même si ça date d'il y a longtemps, parce que c'est un plan qui, pour la première fois, va faire une connexion immédiate, depuis la guerre d'Algérie en fait, va faire une connexion entre les populations arabes de France, les jeunes arabes de France, et le danger venu de l'extérieur. Donc comme la liaison entre un danger intérieur et le danger extérieur. Et là, les jeunes arabes de France sont ciblés avec l'idée qu'ils pourraient éventuellement se solidariser avec l'Irak de Saddam Hussein, qui était alors attaqué par une coalition de 39 pays, menée par les États-Unis, mais avec beaucoup d'autres pays. Et donc l'idée qu'il y a un ennemi intérieur qui pourrait se solidariser avec une cause extérieure contre des agressions impérialistes, c'est une idée qui va avoir sa réalisation politique. C'est pas simplement une idée, c'est pas de la propagande. Ça va avoir sa réalisation politique avec des lois qui vont avoir pour but de surveiller cette population dans ses expressions politiques. Et le plan Vigipirate a, dans ses différentes modalités, a cette caractéristique. Donc on va créer en France, à l'époque, une section ville et banlieue des renseignements généraux. Quelques temps après, quasiment une même année, il me semble, la BAC, elle va être créée. Donc la brigade anticriminalité, qui a vraiment une particularité, qui est une brigade de surveillance de nuit en particulier, enfin qui est issue de ça en fait, qui succède à des brigades de surveillance de nuit, et leur but c'est l'interpellation des flagrants délits, leur but c'est l'interpellation directe des populations des quartiers, et des jeunes des quartiers en particulier. Une particularité quand même bien française, elle a été inventée par un spécialiste de la répression en Algérie et en Guadeloupe, donc qui finissait sa carrière, et qui avait été, dès les années 60, un organisateur de la répression contre les populations coloniales insurgées. Aujourd'hui, il y a, on peut dire depuis une dizaine d'années, les lois elles sont multipliées pour le contrôle de cette population. Alors ces derniers temps, il y a eu la loi sur la sécurité globale, la loi sur le renseignement, la loi très récente qui assimile dans les universités en particulier l'antisémitisme et l'antisionisme, et étant donné la force de la force et l'implantation du courant de solidarité avec la Palestine dans les quartiers populaires, même si c'est une question qui touche ici les universités, on ne peut pas faire de lien, il y a un lien évident, c'est-à-dire les causes politiques qui peuvent le plus toucher cette population sont criminalisées, en particulier les causes internationales, qui peuvent avoir un écho sur la situation sociale et sur l'oppression ressentie, y compris ici, même si les conditions sont très différentes. Et donc, toutes ces lois, elles ont des points communs. C'est d'abord, premièrement, que ce soit les lois sur le terrorisme, les lois sur le séparatisme, les lois sur la sécurité intérieure, elles sont toujours présentées après des événements de traumatisme. Ça, c'est un peu la logique du choc qui était chère à une théoricienne altermondialiste. Et c'est vrai, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a eu des attentats en 2015 en France. Et la particularité de ces lois, c'est que systématiquement, elles sont présentées comme étant contre des djihadistes. Elles ont été appliquées en premier, si on prend la loi contre le terrorisme. En premier, elles ont été appliquées contre des militants écologistes. Et donc, on est passé d'ailleurs au thème un peu étrange là, de l'éco-terrorisme. Mais même chose, ces lois-là, elles sont utilisées massivement contre les quartiers populaires et souvent en premier lieu. Et la loi Attal, donc, c'est un élément de cet ensemble de lois. Lutter contre la criminalisation de la jeunesse populaire, c'est lutter contre toute cette logique législative, politique, qui consiste à les réprimer, les cantonner, et finalement à avoir des traitements spécifiques et d'exception pour ces populations. Il y a un dernier point qu'on voudra aborder, qui est un point particulier, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de dynamique autour de cette question, pas de dynamique assez forte, mais il en existe justement une qui nous paraît importante et exemplaire, même si elle est aujourd'hui limitée, c'est que on ne peut pas lutter aujourd'hui contre la criminalisation de la jeunesse, et on ne peut pas lutter avec un mouvement autonome qui défend les intérêts de la jeunesse prolétaire si on ne pose pas la question des conditions concrètes de vie dans les quartiers populaires, et en particulier si on ne pose pas la question des réseaux de stup et de la façon dont ils fonctionnent. Tout le monde sait en France que le narcotrafic, c'est devenu, sur le plan capitalistique quasiment, c'est devenu une chose très importante, mais sur la vie quotidienne, c'est devenu aussi une forme d'oppression. C'est devenu une forme d'oppression immédiate pour un grand nombre de jeunes. Donc il y a une exploitation de plusieurs milliers de jeunes dans des réseaux, donc il ne s'agit pas ici simplement de dire que c'est des victimes, mais c'est des gamins très jeunes, évidemment, et qui sont mis au travail par des grossistes. C'est des entrepreneurs capitalistes atypiques parce qu'ils se retrouvent en conflit avec la police et l'État, mais ils se retrouvent aussi au service de la logique de cette police et de cet État. Et ça, pour nous, on ne peut pas le passer sous silence. Alors évidemment, Marseille, il y a une situation un peu particulière, parce que c'est toujours présenté, Marseille, un peu comme l'école du crime. Il y a des gamins qui viennent faire leur stage avant de repartir dans différentes régions. Donc il y a une sorte de mythologie marseillaise de tout ça. Bon, la réalité aussi, on la connaît, hein. Il y a eu, suite à des conflits entre réseaux, il y a eu plus de 49 morts en 2023. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont pris dans un rêve des stupes, dans ce que Philippe Pujol, qui a fait des enquêtes incroyables sur cette question, il appelle le Dream Kalachnikov. Et donc nous, ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas la destruction de milliers de jeunes, que ce soit par l'État ou que ce soit par la logique du réseau de stup. C'est des jeunes qui deviennent à la fois des bourreaux et des esclaves, sans parler d'une partie qui est liée à ça, qui est la prostitution des jeunes filles, en particulier des mineurs qui sont des mineurs qui sont pris en charge par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance, qui sont dans des différents foyers. Il y a même eu une sorte de romantisation de ça, dans un film, même si c'est un film qui peut plaire pour plein de raisons, qui s'appelait Scheherazade, qui a été fait à Marseille, où on a une histoire d'amour sur fond de prostitution de cette jeune par un jeune dealer qui essaye de faire son ascension dans le narcotrafic. Alors il n'y a aucune raison d'accepter l'ordre du narcotrafic dans les quartiers populaires, il n'y a aucune raison d'accepter sa culture de mort, il n'y a aucune raison d'accepter que ce soit ça qui dirige la vie des quartiers populaires, et c'est loin d'être un combat réactionnaire. C'est exactement l'inverse. En particulier si c'est une auto-organisation de la population, et si c'est pas mené justement comme prétexte pour réprimer les jeunes des quartiers populaires. Il y a un exemple de ça, qui est un exemple pour nous admirable, un exemple essentiel, c'est l'exemple qui est en train de se passer, là, qui a déjà plusieurs semaines d'existence, dans le quartier Belle Ombre, dans le 11e arrondissement à Marseille. avec une auto-organisation du quartier, des dizaines de personnes impliquées, et qui posent leurs conditions de vie comme question, qui posent leur confrontation avec les autorités, avec la mairie, mais aussi avec la police, et qui se sont organisés pour empêcher qu'il y ait l'installation de points de deal, mais qui ont aussi posé les questions de leurs conditions de vie dans la copropriété HLM qui est la leur. Donc ce combat, il est un combat contre la criminalisation, il est un combat qui doit être conséquent contre toutes les formes d'oppression que subit la jeunesse des quartiers populaires, et pas simplement l'État et les flics. Nous savons que c'est une question qui est complexe. Le trafic, on dit souvent, qui bloque les luttes sociales, parce qu'il faut de l'ordre, il faut du calme, pour qu'il puisse y avoir du business et du commerce, de stup. Mais c'est parfois pas totalement vrai, parce que on sait que en 2023 en particulier, que les réseaux de stup, ils ont été submergés par la révolte de 2023, à la fois parce qu'elle était puissante, mais aussi parce qu'il y avait une composante de dire « oui, ah oui, c'est légitime, on peut pas se mettre toute la population à dos, il y a une espèce d'opportunisme des réseaux qui peut exister ». Donc la situation, elle est souvent complexe, la situation sociale, ça doit pas nous empêcher de prendre l'initiative. Le point de deal, comme lieu mythique du quartier populaire, l'idée que c'est un horizon obligatoire, que c'est un lifestyle, que c'est une façon de vivre pour les quartiers pauvres en France, c'est quelque chose qu'on rejette, c'est quelque chose contre lequel on peut combattre. Et on en veut pour preuve que les vrais mouvements populaires de lutte contre le pouvoir dans les centres impérialistes aujourd'hui ont posé cette question-là. Et là, il y a un exemple qui est fabuleux, qui est hyper important, c'est l'exemple de l'Union del Barrio, en particulier en Californie, mais dans d'autres États aussi, qui a posé cette question-là, donc à la fois de lutte contre la police, contre les expulsions massives de travailleurs et de populations en général d'origine mexicaine ou sud-américaine, donc avec la police, la fameuse police ICE. Et donc il y a une lutte frontale, il y a eu aussi une lutte pour se réapproprier les espaces publics, pour s'auto-organiser en tant que communauté de vie et communauté de lutte, communauté donc du prolétariat qui s'auto-organise. Il y a aussi des exemples en Turquie, même si ce n'est pas un pays qui est de la même nature que les États-Unis ou que la France, il y a des exemples qui sont faits par des camarades politiques, des camarades communistes de Turquie. Et donc, on peut s'appuyer sur ces exemples. Évidemment, il ne s'agit pas de les copier. Il faut partir de la réalité qui est celle des quartiers populaires en France. Et il y a sûrement des dizaines et des centaines de résidences comme Belle Ombre qui peuvent être organisées et se battre sur deux fronts, celle des autorités et celle du réseau de stup, pour qu'il y ait à la fois une meilleure vie, mais aussi une auto-organisation, une puissance et une capacité d'agir à partir des quartiers populaires, à partir du prolétariat. Donc nos objectifs sont ceux-là, c'est ceux d'organiser des espaces où puissent s'exprimer des énergies de lutte, c'est des initiatives d'auto-organisation, c'est des initiatives d'espace autonome. Nous voulons combattre tout ce qui fait l'impuissance et l'idée qu'on est dans l'incapacité de réagir aux différentes formes d'oppression aujourd'hui, et on veut exister politiquement. On voudrait que cette campagne, elle permette de renforcer nos rangs, elle permette de s'organiser pour ceux d'en bas, comme on dit, et qu'elle permette d'organiser leur autodéfense par tous les moyens nécessaires, comme disait un illustre combattant de la cause des peuples dans les centres impérialistes, mais aussi dans le monde.